Oui, alors pour prendre l'objection de Catherine Couillot-Hellel, je pense que Jean-Yves va peut-être vouloir compléter tout de suite. Ça peut être une
Oui,
possibilité aussi, c'est
d'accord,
que
on peut faire
voilà,
ça.
on a quand même l'habitude de travailler, ça devrait aller. Moi, ma réaction, c'est que je n'ai pas je ne contesterai pas l'interprétation que vous proposez de la déclaration de 1789. Je voulais juste insister sur le fait que ce n'est pas quand nous disons que la déclaration a aussitôt absorbé les droits de l'homme dans la souveraineté nationale, c'est pas nous qui parlons, c'est à Rennes. Et donc c'était pas assez clair, c'est en tout cas comme ça qu'à Rennes dit la déclaration, nous semble-t-il. C'était la juste.
Oui, alors juste pour compléter, je pense que c'est vraiment très compliqué parce que je pense que la déclaration est ambiguë. Je pense que la déclaration autorise immédiatement les deux lectures et immédiatement les deux lectures ont lieu. C'est-à-dire, d'un côté, il y a Claude qui dit voilà, la souveraineté de la nation, c'est la souveraineté de l'humanité sur elle-même. Deux nations, ça veut dire que il y a deux souverainetés, il y a deux peuples, c'est une contradiction dans les termes. Donc, nation ne peut signifier que le peuple et rien d'autre. Volney pense que ça a un sens cosmopolitique. Mais en même temps, si on regarde le casque de tiers d'État de Sieyès, on est déjà, je pense, j'ai tenté de le montrer ailleurs, dans un discours nationaliste. Et on a la matrice rousseauiste, hein, projet de constitution de la Corse, pour qu'il y ait un peuple, il faut qu'il y ait un caractère national. Nation peut signifier caractère national. Et donc, tout simplement, dans la déclaration, le problème, c'est qu'on ne sait pas ce que veut dire nation. On ne sait pas ce que veut dire nation. On peut le comprendre comme ça, et une partie des révolutionnaires le pense, comme vous l'avez proposé. Une autre partie des révolutionnaires le pense dans un sens nationaliste, et ça va très vite partir du côté nationaliste. C'est-à-dire qu'en quelques années, on va très bien comprendre que nation, ça a bien quelque chose à voir avec la nation. Et c'est déjà vrai dans Qu'est-ce que tu as ta Sieyès, où on a un double discours permanent, une espèce de synthèse très étrange d'un Adam Smith et d'un Rousseau retranscrit déjà dans le lexique de la volonté nationale et de l'unité de la nation et de la nature. Donc on a à la fois la nation comme assemblage d'individus, comme une réalité non nationale, et la nation comme réalité nationale, comme tradition de mœurs, histoire, etc. Donc je pense que tout simplement, on a dans la Déclaration des droits de l'homme de 89 un impensé. Et c'est cet impensé qui fait que, comme le dit Arendt, l'homme surgit dans sa différence avec, le citoyen surgit dans sa différence avec le national et peut être réabsorbé très vite sous la pression des événements. Donc voilà, moi c'est ça que je répondrai. Donc en fait, j'ai envie de dire, oui, c'est absolument, il y a une différence, mais c'est bien ce que dit Arendt. C'est-à-dire qu'il y a à la fois le surgissement et la réabsorption qui procèdent ensemble et la décision a lieu très vite, vers 92, disons. Voilà. Après un moment d'hésitation entre les deux sens possibles du mot nation. Bon, voilà, c'est ce que j'aurais envie de dire.
Donc je continue pour les objections. Alors, sur la généalogie du scepticisme démocratique, je ne pense pas qu'on va y rester trop longtemps, vous nous avez fait trop d'honneur parce que c'était pas. Oui, bien sûr que l'émergence des droits de l'homme est liée à une certaine forme de scepticisme. On ne l'a pas du tout entendu dans ce sens-là. Vous avez bien compris, quand on parlait de scepticisme démocratique, c'était une certaine forme de distance ou de distanciation qui se fait sentir dans la sphère intellectuelle ou dans la sphère publique. Donc on est parti du sens plutôt courant du terme. Sauf si tu voulais ajouter quelque chose d'essentiel là-dessus. Non. Donc je vais à l'effort. On va revenir sur Arendt parce que, bon, pour parler franchement, vous nous dites qu'il faut pas, on ne peut pas faire écrire aux auteurs le contraire de ce qu'ils disent, mais j'ai parfois l'impression, pardonnez-moi, que vous nous faites dire des choses que nous ne disons pas. Parce que vous dites, sur le contexte intellectuel de l'effort, vous dites que vous feignez de vous étonner que Marcel Gauchet et Pierre Manent soient si proches. On ne s'en étonne pas du tout. Simplement, nous n'écrivons pas uniquement pour les philosophes parisiens. Tout le monde ne connaît pas leur itinéraire. Donc la seule chose que nous disons quand nous constatons que leurs pensées se rejoignent, se confondent pas, mais se rejoignent sur ce point, c'est que leurs itinéraires politiques et intellectuels sont distincts et assez différents. Et je ne crois pas que ce soit. C'est la seule chose, je viens de vérifier, on dit, ils viennent simplement d'un itinéraire, en tout cas relativement différent. Plus important, le fort libéral, moi je suis tout à fait d'accord, je veux dire, peut-être moins Jean-Yves que moi, nous sommes souvent d'accord là-dessus, parce que j'ai peut-être une vision plus émancipatrice du libéralisme que la sienne, Mais il n'y a pas un endroit, en tout cas dans le livre, où j'aurais laissé Jean-Yves écrire à mon insu que le fort n'est pas libéral. Bien sûr que le fort reprend beaucoup d'éléments du libéralisme classique dans leur dimension subversive et émancipatrice. Et d'ailleurs, c'est aussi le cas chez un certain nombre d'auteurs de ce que vous avez justement appelé l'extrême-gauche plurielle. Je crois que vous aviez montré qu'il y avait un certain nombre d'intuitions du libéralisme classique qui se retrouvent chez Balibar. Non, peut-être que la position de Lefort n'est pas radicalement nouvelle au sens où elle s'inscrit dans une histoire, elle reprend un certain nombre d'éléments du libéralisme classique, mais disons qu'elle est nouvelle en tout cas par cette insistance sur cette dimension directement politique. Moi je ne vois pas d'autres auteurs qui analysent de façon aussi précoce la dimension proprement émancipatrice et démocratique de ces luttes de droit à la fin des années 70. Il me semble quand même qu'en tout cas l'analyse est nouvelle. Sur la question des droits sociaux, je pense qu'il y a quand même des textes assez clairs de Lefort qui établissent une filiation entre les droits sociaux et les droits civils et politiques. Là, je ne sais plus, c'est ce texte dont on discutait l'autre jour, là, où il montre quand même très bien que les droits acquis sont appelés à nourrir des droits nouveaux, et il évoque explicitement la question des droits sociaux, avec cette question sur laquelle on butait d'ailleurs, c'est que lui, dans un texte, il semble quand même introduire une forme de hiérarchie, puisqu'il dit qu'au fond, que si les droits sociaux sont à un moment attaqués, le tissu social se maintient, ce qui n'est plus le cas si les droits civils et politiques le sont. Donc il semble introduire quand même une forme de hiérarchie entre les deux.
Je dirais pas hiérarchie.
Tu dirais pas hiérarchie, mais en tout cas, il y a une forme de continuité. Je ne pense pas qu'on puisse prendre son opposition aux grèves de 95. Enfin, on peut être en faveur des droits sociaux et estimer que les retraites nécessitent une réforme. Ce n'est pas parce qu'on a soutenu...
Si vous permettez, je n'ai pas dit qu'il était hostile aux droits sociaux.
Non, vous avez dit qu'il voyait bien qu'il n'y avait pas une continuité.
C'est ce que vous venez de dire vous-même, c'est qu'il y a des distinctions quand même majeures à laquelle me semble-t-il, j'étais plus attaché que certaines de vos formulations. Je le suggère, je suis en revanche d'accord avec la formulation que vous déployez. Il y a quelque chose qui ressemble à une hiérarchie et qui est par ailleurs tout à fait classique, parce que c'est la manière dont toutes les histoires traditionnelles du droit de l'homme se décrivent. D'ailleurs, c'est qu'il y a d'abord les droits libertés, ensuite les tolérances, ensuite des nouvelles choses, mais qu'on ne peut pas les mettre entièrement sur le même plan. Bon, ce que je voulais dire, c'est simplement, mais je ne dis pas que c'est solide, mais qu'il ne faudrait pas que ça conduise à penser que le fort fait comme certains qui pensent qu'il n'y a aucune différence de nature entre la liberté de conscience et le bon travail.
Si je peux répondre, je voudrais quand même rappeler que la préface de 79 aux éléments d'une critique de la bureaucratie est extrêmement radicale dans la défense du droit social, extrêmement radicale, et pourrait tout à fait circuler dans des textes de gauche radicale qui ne verraient rien à y redire. Donc, il ne faut pas non plus, si vous voulez, et c'est un texte à peu près de la même époque. Il écrit ça en 79, c'est pas un texte de 75. Et d'autre part, après 1995, il écrit quand même des textes dans lesquels il dit que la situation présente, c'est qu'on est en train d'assister à une terrifiante désubdimation et que la destruction du droit social, si elle continue aussi loin, va finir par mettre en danger les libertés publiques elles-mêmes. Donc c'est pourquoi je prendrai pas la hiérarchie, parce que je pense que Lefort a d'ailleurs tout à fait raison. Ce qu'il décrit, c'est un rapport de tissu, c'est un rapport organique. Donc, les concepts de hiérarchie ne peuvent pas s'appliquer. Ce qu'il décrit, c'est comment le tissu des libertés publiques nourrit la revendication sociale qui induit le droit social. Et il dit, si on attaque le droit social, comme ça a lieu à l'époque, à son avis, sous Reagan ou sous Thatcher, il dit, ça n'est pas mortel comme l'attaque totalitaire contre les libertés publiques. Si vous attaquez les libertés publiques comme fait totalitarisme, dit-il, vous attaquez aussi le droit social, tout est détruit. Si vous attaquez le droit social, vous ne lésez pas le tissu dans toute sa profondeur. C'est la différence entre une brûlure du premier degré et une brûlure du troisième degré. Je trouve que la métaphore est très juste, mais justement, ça n'est pas une métaphore de subordination lexicographique. C'est une métaphore tout à fait dynamique et historique, et qui vise à dégager des noyaux et la façon dont un noyau organiquement se développe dans des tissus. Donc voilà, dans le sujet, c'est la même différence qu'il y a entre le squelette, le système nerveux, la chair. Ça n'empêche pas que si vous détruisez la chair de quelqu'un en ne laissant que son système nerveux et son squelette, vous n'avez plus un être vivant. Voilà, donc il me semble que Lefort a tout à fait raison de penser les choses ainsi, non pas de manière analytique, avec de la hiérarchie ou des priorités lexicographiques, mais en termes de solidarité organique et de différence de gravité des lésions, des attaques, de ce qui est de l'ordre de la destruction, etc. Sur le libéralisme, je crois que le problème est vraiment que le mot libéralisme est tellement vague et prête à tellement d'emplois. Et moi, il y a des sens dans lesquels je suis tout à fait libéral, et je n'embêterai pas Justine avec ça. Il y a des sens dans lesquels je suis moins libéral que Justine parce que je suis beaucoup plus dur qu'Alain qu'elle. Et il faut savoir si on entend libéral par opposition à autoritaire, par opposition à totalitaire, par opposition à communautaire, ou si on l'entend par opposition à socialiste, ou par opposition à social-démocrate. Est-ce qu'un libéral, c'est quelqu'un, dans une définition très large, qui adhère simplement aux principes globaux de la modernité, auquel cas on ne va trouver d'antilibéraux que dans les marges du nazisme ou du léninisme maintenant, ou bien on décide de prendre libéral en un sens beaucoup plus déterminé, et on dit, ça serait la définition à laquelle je me rallierai au dernier livre de Carcenti et Lemieux là-dessus, on dira, un libéral c'est quelqu'un qui occupe une position très spécifique dans la configuration ouverte par la Révolution française et par les droits de l'homme, et qui donne une interprétation justement des libertés publiques dans laquelle les droits sociaux sont minorisés, posé en position subordonnée, c'est quelqu'un qui pose une hiérarchie lexicographique, et en ce sens-là, Rawls est un libéral, Habermas n'en est pas un, comme le dit Catherine Audard, et je serais assez d'accord avec la position de Catherine Audard. Donc je pense que là, on a vraiment une vraie difficulté sur cet usage du mot libéral. Moi, j'ai envie de dire que historiquement, au sens où le mot est employé, quand il apparaît à partir de Constant, et au sens où il se diffuse ensemble au cours du 19e, et au sens où ou triomphe au 19e, un libéral, c'est quelqu'un qui a besoin qu'un mouvement ouvrier l'embête pour qu'il accorde des droits sociaux. S'il n'y a pas un mouvement ouvrier pour l'embêter avec ça, il n'accordera pas de droits sociaux. Voilà. C'est exactement ça, un libéral, au sens de tiers, etc. Alors, qu'est-ce que vous dites sur l'usage général du libéralisme? Là, je vais être très triste de ce que je dis, parce que j'admire beaucoup les auteurs dont vous parlez, et je fais lire à tous mes étudiants de première année les travaux de la modernité de Strauss et la préface de Pierre Manon à son anthologie des libéraux, parce que je trouve que c'est formidablement formateur pour les étudiants. Mais je vais assumer une position assez nominaliste, en fait. C'est-à-dire que je vais être très réservé sur l'idée que Hobbes est un libéral. Je pense que l'émergence des mots, idem pour les droits de l'homme, a un sens, qu'il se passe quelque chose avec l'éruption des droits de l'homme. Donc là, je donne raison à Lefort, et je crois que c'est en fait montré également par le grand livre de Marcel Gaucher sur la notion des droits de l'homme. Je pense que la déclaration des droits de l'homme constitue un glissement de terrain considérable, que ce n'est pas insignifiant que le syntagme des droits de l'homme soit quasiment absent auparavant, ou présent dans des tournures compliquées, biscornues, droits et devoirs de l'homme et du citoyen, en fonctionnant très peu de manière autonome, ne se mettent à fonctionner comme un syntagme que dans les Lumières tardives, d'accord, par exemple chez Rénal ou chez Louis-Sébastien Mercier, où d'un seul coup on voit le syntagme qui commence à circuler, s'impose au moment de la Révolution française et est corrélatif d'une coagulation historique et théorique tout à fait inédite. Hein, quand on lit Sieyès, la synthèse d'Adam Smith et de Jean-Jacques Rousseau est quand même une chose très très étrange. C'est une coagulation extrêmement étrange, et l'idée même des droits de l'homme sous la Révolution française surgit dans le contexte de ces coagulations extrêmement étranges. Je pense qu'il n'est pas insignifiant que Locke, Hobbes ne parle pas des droits de l'homme. Je pense que ce n'est pas du tout insignifiant. Et je serai donc pour un usage extrêmement tempéré, sous réserve de généalogie future et plus aboutie, mais je serai donc pour un usage extrêmement historiciste de ce point de vue-là, des notions de droits de l'homme ou de libéralisme, et je serai très prudent pour qualifier de théorie des droits de l'homme ou de théorie libérale. Donc là, je rejoins un article de Binoche sur les deux principes du libéralisme, des gens qui n'auraient tout simplement pas compris de quoi on parlait avec ces expressions-là. Ouais. Donc là, ma position est quasi-foucaldienne, hein, de façon assez sereine. Je pense qu'il y a eu un changement de terrain avec la déclaration de 80.
Je crois que personne ne le conteste.
Oui, mais voilà. Non, mais c'est pour répondre à votre question, si vous voulez, puisque le... voilà, vous parlez de la généalogie, donc il y a eu une décision, parce qu'on s'était posé la question de savoir Dans quelle mesure on entre dans la généalogie des droits de l'homme? Et je pense qu'il y a encore un travail énorme à faire là-dessus. La question de savoir à quel moment, enfin vraiment, la question de la généalogie des droits de l'homme compte-t-elle? On s'en tient beaucoup trop à des sauts finalement, et il faudrait absolument étudier des corpus très peu étudiés. J'ai pris l'exemple de Louis-Sébastien Mercier, qui sont des corpus qui ont joué un rôle absolument énorme dans la Révolution française et qui n'intéressent pas grand monde. Et à mon avis, il y a des événements décisifs théoriquement qui se passent dans ces corpus-là en réalité, pour les gens qui vont ensuite se retrouver à l'Assemblée nationale et prendre des décisions. Donc là, je serais très très prudent. Voilà, donc c'est ce qui répond à vos questions sur code de fond libéral. Voilà, ça dépend en quel sens on donne le mot libéral. Si un libéral, c'est un moderne, oui, il est un libéral. Tout à fait d'accord.
Si je peux me permettre, un libéral, c'est quelqu'un qui n'est pas simplement un moderne, c'est quelqu'un qui, pour l'idée que l'État ne peut pas être réduit à la société, c'est quelqu'un qui pense que la société est prioritairement oubliée de cette manière-là. Quelqu'un qui est pour des dispositifs par lesquels le pouvoir va être le pouvoir, et qui pense que même s'il doit y avoir des droits sociaux, l'État ne peut pas entièrement diriger la société. C'est ça, le libéral. Et c'est ce que ça veut dire avant qu'on ait l'irruption dite néolibérale des années 60. Et le force de ce plan-là, c'est un libéral tout à fait honorable, mais je maintiens qu'il n'a pas d'originalité. C'est quelqu'un qui est pour la démocratie libérale. Voilà. Et en fait, la théorie avec des idées qui sont tout à fait classiques. Mais simplement, c'est exprimé dans le langage de la reconquête. C'est ça qui est faux. C'est la reconstruction de la reconquête d'une théorie qui était déjà à la disposition de tout le monde. Mais avant, comme les Français sont ignorants, ils ne sont pas reconnus.
J'ai du mal à admettre que l'auteur des Inventeurs didactiques est un auteur libéral, en un sens très strict, mais.
Parce que le fort était un meilleur politique que Merleau-Ponty, je merci.
Je crois qu'il faut qu'on avance, parce que sinon, il y a deux questions. La question du libéralisme de Lefort, on pourrait encore discuter longtemps, la question de la novation, de l'importance conceptuelle de la pensée de Lefort, où là, je crois effectivement qu'il y a sans doute un désaccord. Mais on va pas le régler ici, il faut qu'on avance. Moi, je saute Marx, hein, qui reviendra peut-être. Arendt. Oui. Alors, écoutez, vous nous dites que vous avez eu l'impression de vous reconnaître, mais vous n'avez pas seulement eu l'impression, on nous dit très explicitement qu'on est en désaccord avec votre interprétation. Voilà, c'est un désaccord sympathique, avec qui n'exclut pas une grande admiration par ailleurs, mais moi, j'ai envie de dire, il y a deux façons. Je comprends votre objection. En fait, vous dites, voilà, vous répondez à un texte qui est publié dans On Revolution par un texte qui est antérieur, qui est les origines du totalitarisme. Effectivement, puisque d'un côté, dans On Revolution, elle nous dit, voilà, le diagnostic de Burke n'est pas périmé réactionnaire, elle attaque 1789, et puis voilà, vous répondez en disant, mais en réalité, elle ne donne pas du tout raison à Burke, puisque dans les origines du totalitarisme, qui est 10 ans plus tôt, elle dit que Burke, elle le dit explicitement qu'il était à l'origine d'une pensée raciale, elle dit explicitement qu'il faut aller au-delà de Burke et donc dépasser son simple bon sens pour imaginer d'autres formes de moralité. Alors, je comprends votre argument en disant il faut prendre le texte le plus ancien. En même temps, Arendt n'a jamais dit qu'elle avait changé d'avis, à ma connaissance. Bon, je ne suis pas spécialiste de l'œuvre d'Arendt, enfin je n'ai pas connaissance d'un seul texte où elle ait renié les analyses qu'elle a livrées dans les origines du totalitarisme. Et donc il y a aussi une autre façon de prendre les choses, je m'avance avec prudence, qui est peut-être de prendre l'ensemble des textes, puisqu'elle ne les a pas reniés, et peut-être le texte qui est peut-être le plus convaincant. Là je l'ai livré doucement, moi je j'en avais discuté avec un des meilleurs spécialistes de la pensée d'Arendt, qui pour le coup était arendtien, parce que moi, On Revolution, c'est un texte qui me laisse extrêmement perplexe, et que je trouve beaucoup moins puissant que les origines du totalitarisme. J'ai été rassurée qu'il me dise que lui, par certains aspects, ce texte était peut-être pas le livre le plus réussi d'Arendt, et que c'était aussi une profession de foi pour son nouveau pays. Donc il y a aussi différentes... Alors, on ne va pas prétendre ici mieux savoir ce qu'Arendt écrivait, ce n'est pas du tout le cas. Je ne vois pas en quoi nous baser sur les origines du totalitarisme pour montrer qu'elle ne donne pas raison à Burke est un problème à partir du moment où elle n'a jamais renié ses écrits. Et ensuite, par rapport
au... Elle ne dit pas la même chose dans les deux livres, si vous voulez.
Elle ne dit pas la même chose dans les deux... c'est pas pareil. Dans On Revolution, elle ne parle pas de la même chose. Dans les origines du totalitarisme, elle montre, elle insiste... on peut reconnaître la lucidité du diagnostic de Burke, ce qu'elle fait, et néanmoins, en même temps, reconnaître que Burke n'a pas su, que son diagnostic a une force pragmatique, parce qu'effectivement, il a prévu ce qui allait se passer, mais que néanmoins, Burke manque de clairvoyance philosophique dans la mesure où on doit aller au-delà du constat pragmatique.
Si je peux permettre, dans les origines du totalitarisme, elle constate le déclin des nations et la Ligue des droits de l'homme, mais elle ne donne pas d'analyse de cette affaire-là. Ce qu'elle dit, elle constate simplement une chose et elle regrette que la belle tradition incarnée par Clemenceau au moment de l'affaire Dreyfus soit disparue. Dans Revolution, elle donne une analyse vraiment très précise de ce qu'il est convenu d'entendre par les droits de l'homme de la Révolution française, qui n'est pas présente là. Et s'il s'agit de comprendre, et comme je pense dans la plupart des cas, quand elle parle des droits de l'homme, elle parle des droits de l'homme au sens de la Révolution française, c'est plutôt dans Revolution qu'on trouvera des trucs intéressants, si vous voulez. C'est peut-être pas des choses qui vous intéressent pour votre projet. Pour comprendre à la fois ce que dit Arendt et ce qui s'est passé dans la Révolution.
Si je pourrais prendre juste sur ce point, parce que le texte, c'est ça que je me surprends, mais le texte que vous avez cité dans la Révolution, je suis assez d'accord avec ce qu'elle dit. Et ça me semble assez bien confirmé et illustré par les travaux de Daniel Donstein. Que dit-elle? Elle dit ce qui provoque la catastrophe révolutionnaire, parce que si je comprends la Révolution française, pourquoi la Révolution française débouche sur la terreur? Et elle dit qu'est-ce qui se passe? C'est que les droits de l'homme sont complètement naturalisés. C'est absolument ce qui se passe sur Robespierre, effectivement. Il n'y a plus d'institution des droits, il n'y a plus que le droit naturel qui doit régner seul et qui n'a pas besoin d'institution. Et dans un deuxième temps, ces droits de l'homme qui ont été complètement dépolitisés, naturalisés, sont décrétés être le droit politique. Et vous avez la terreur. Mais c'est vrai. C'est ce qui s'est passé. C'est le point, si j'ai envie de dire, c'est même le moment juste de la critique contre-révolutionnaire.
Parce que l'attaque, c'est la terreur.
Donc, je ne prends pas ça comme une. Pour le coup, je trouve qu'elle pointe quelque chose qui a vraiment été dans la Révolution française et dans l'interprétation qui s'est imposée des droits de l'homme dans la Révolution française, en particulier sur la terreur. Elle pointe quelque chose qui a été un vecteur fondamental du passage de la
Révolution. Mais qu'elle oppose ce qui s'est passé dans la Révolution américaine où les gens se sont. N'ont jamais prétendu faire autre chose que établir un gouvernement modéré, et d'autre part, ce qu'elle explique, c'est que la grande différence, c'est que vous dites qu'il n'est pas très aimable que je vous comprenne de votre propre histoire, c'est pas vrai, parce que je ne donne pas exactement la même analyse que lui, mais en l'occurrence, ce qu'elle dit, c'est bien que les Américains, eux, ils ont commencé par constituer un ordre constitutionnel qui garantissait des droits pour les citoyens américains, et que ça va mieux marcher que les Européens français.
Oui, mais. Mais comment expliquer alors, d'une part, qu'elle explique la faillite de la France par cette incapacité à mobiliser les principes de 1789, c'est quand même très clair, et comment expliquer la postface aux origines du totalitarisme?
Parce que le projet français est contradictoire. Ce qu'elle raconte tout au long de la Révolution et tout au long de la crise de la culture. Prenez l'article sur la liberté, c'est toute la culture française qui est contradictoire.
Mais si vous voulez,
parce qu'elle confond la liberté et la volonté, etc.
Mais pour l'usage qu'on peut faire d'Arendt, parce que moi j'ai lancé l'expression point de rebroussement, parce que je crois que c'est ça dans l'économie du livre, le fait que toutes les critiques des droits de l'homme qu'on étudie, en fait, échouent pour finir toutes sur le fait qu'elles n'arrivent pas à liquider le droit à avoir des droits. C'est leur point d'échec systématique. À chaque fois, il y a toujours un moment où elles surjouent leur critique des droits de l'homme. Et en réalité, en catimini, réintroduit certains des thèmes des droits de l'homme parce qu'il faut absolument, en réalité, garder quelque chose comme un droit à avoir les droits. Je crois que c'est très très frappant, paradoxalement, chez les critiques les plus systématiques et les plus rigoureux, qui sont Comte et Bentham, qui à la fois fournissent les critiques les plus détaillées, les plus cohérentes, les plus fortes, et qui en même temps fournissent les critiques les plus instables, parce qu'ils passent leur temps à réintroduire ce qu'ils prétendent refuser. Donc si on prend Arendt comme un point de rebondissement, j'ai envie de dire, notre problème à nous, c'est pas est-ce que le texte que vous avez cité, est-ce que nous, on peut en faire quelque chose, est-ce qu'on doit en tenir compte et qu'il n'y ait pas de l'homme? Ma réponse, c'est oui, un point, effectivement, une difficulté tout à fait réelle, dont toute philosophie des droits de l'homme doit tenir compte. C'est-à-dire, elle met en garde contre une possibilité, contre une version dépassatrice des droits de l'homme, et qui a eu sa réalisation effective dans la terreur sur la Révolution. C'est pas une expérience sur laquelle on peut faire la place.
Et alors, peut-être un dernier point, avant de peut-être passer quand même une autre question, parce que sinon on ne va pas y arriver, c'est sur Little Rock, parce que ces textes reviennent tout le temps, on les oppose. Emmanuel Faye aussi encore fait une utilisation, dit, vous voyez Arendt. Il faut quand même se replacer dans le contexte de la réflexion sur Little Rock. C'est ce qui est quand même un contexte aussi où on voit des enfants qui sont instrumentalisés dans des luttes politiques. Ce qui, pour quelqu'un qui avait dû fuir une dictature, le risque totalitaire, pouvait aussi être insupportable. Donc il y a aussi, c'est vrai, une certaine rigidité d'Arendt sur la question d'une immission de l'État dans la vie privée, ce qui aujourd'hui rend ces textes assez inaudibles. Elle envisage la possibilité, effectivement, que les Noirs et les Blancs soient séparés dans leur club de sport et tout ça, sans que l'État s'en mêle, c'est sans doute intolérable, mais il faut se représenter ce que c'était à l'époque. On ne peut pas couper complètement ce texte de l'actualité où des enfants sont poussés dans le dos, devant les caméras, sous les nuées, au milieu des soldats, ce qui peut être extrêmement révoltant aussi. Donc je pense que c'est comme ça aussi qu'il faut comprendre ces textes, et pas comme une apologie à refus d'une égalité entre les hommes.
Quoi. Non, c'est pas du tout un refus d'une égalité,
mais
c'est simplement
le fait des droits de l'homme.
Ça n'est pas une politique des droits de l'homme. D'autre part, s'il faut me permettre d'insister avec Judith sur le fait qu'elle est attachée à un modèle fédéral, mais ça l'a conduit à des choses quand même qui sont assez curieuses, comme le fait que d'un côté, elle est à la fois, si vous voulez, attachée à l'héritage de Emerson et de Thoreau, mais aussi à celui de Calhoun, quand elle fait l'autre à plusieurs reprises, en nous disant que ce qu'il faut bien voir aussi, c'est le fédéralisme américain. Le fédéralisme américain suppose qu'il y a des droits des États, et si je peux me permettre d'enfoncer un point, ce qu'il faut voir aussi, puisque vous parlez du contexte, c'est que dans le contexte américain, le progrès des droits civiques est inséparable du progrès de la centralisation fédérale. Et la centralisation fédérale, c'est quand même ce que je déteste le plus dans l'évolution de l'État américain. Elle pense que la politique des droits de l'homme, elle a vraiment pensé que la politique des droits de l'homme ressemble à la Russie française de ce fait.
Enfin bon, on va.
Un peu particulière parce qu'on est déjà hors temps et donc malheureusement je ne vais pas proposer qu'il y ait un temps de discussion avec la salle et je prie la salle de m'en excuser. Néanmoins, il y a un consensus là qui se fait, c'est qu'on a la chance d'avoir du permanent dans la salle et on se demandait si ce peut-être il y a quelque chose. Non, c'est très bien. Je le regrette, mais j'en prends acte. Alors, maintenant, on peut redonner la parole aux intervenants, peut-être pour parler pour le dialogue avec Kasim Kolio Telem et Lady Georgievich, pour consacrer le temps qui nous reste à ça.
Oui. Tu veux commencer, Jean-Yves ?
Comme tu veux. Pardon. C'est...
Oui, alors, c'est des questions de Catherine Kolio Telem sont vraiment très vastes et très difficiles, donc. Par quel bout je vais prendre ça? Alors, je vais répondre d'abord à cette question sur la forme d'État. J'ai dit tout à l'heure que j'étais assez durkheimien. J'ai appris de la lecture de Durkheim et de Dugitt, et même de Karim Albert aussi, que la souveraineté et l'État, ce n'est pas exactement la même chose, et qu'on peut très bien être un défenseur de la puissance étatique, du droit social, et de ce que Gurevitch appelait la souveraineté du droit social, puisque c'est ainsi qu'il définissait la démocratie. Et en même temps, dénoncer la souveraineté du peuple comme un mythe, dire que la souveraineté est un mythe théologique. Voilà, et j'ai été très impressionné. impressionné en lisant Carré de Malberg par les passages où il critique Baudin. On lui dit que depuis Baudin, dès le début, en fait, on a investi le concept de souveraineté de deux définitions qui en fait sont complètement dissociables et dissociées. Il faut arrêter de confondre. Donc, il y a la souveraineté comme un sens de dernière décision juridique et la souveraineté comme puissance publique et dans les moyens de sa puissance. Il me semble qu'on peut être très méfiant envers le principe de souveraineté et encore plus méfiant envers la traduction stato-nationale du principe de souveraineté et en même temps penser qu'il ne faut pas accepter le délitement de la puissance étatique en tant que puissance du droit social face à la puissance du marché. Et donc on peut tenir un discours très durkheimien-polanien, si j'ose dire. Et je cite ici Durkheim en particulier parce que Durkheim est quelqu'un qui pensait que la nation était une forme dont on ne voyait pas encore les formes de remplacement, disait-il, mais dont il disait que c'était une idée obscure, mystique, voué à la disparition et au dépassement, même s'il ne voyait pas au moment où il tenait ces propos-là, c'est-à-dire en 1913, comment la nation allait être dépassée. Donc va-t-on jusqu'à désétatiser la communauté politique non. Enfin, personnellement, je ne sais pas ce que Lucien en pensera, mais je ne vois pas de raison d'aller jusque-là. C'est-à-dire, je pense que justement, la critique fédéraliste du principe de souveraineté, qui d'ailleurs ne vise pas à retirer tout droit aux différents États et ne signifie pas qu'il n'y a pas des patrimoines nationaux et ne signifie pas qu'il n'y a pas un droit à parler dans sa propre langue, etc. Enfin, d'où le fait qu'un État fédéral doit être multiculturaliste en tant que tel, hein, si on parle à l'échelle européenne ou si on pense au modèle, canadien. Voilà, je pense que ce modèle-là n'a pas forcément quelque chose à voir avec l'attaque contre la puissance étatique. Alors je ne sais pas si ça répond à ce que pourrait être la communauté au-delà du commun, dans la mesure où justement les théoriciens du commun, à la Dardot-Laval, ont une tendance très forte à ne pas prendre en compte le moment étatique et à vouloir que finalement le commun nous débarrasse de la puissance publique. Voilà, je ne suis pas convaincu que la prise en charge du commun doive annuler le moment de la puissance publique, vous voyez. Mais c'est la puissance publique, hein. Je formulerai pas ça en termes de souveraineté. Si on pouvait se passer de la souveraineté à un moment, ça serait... je ne sais pas si c'est possible, mais voilà. Enfin, ouais, si on pouvait se passer de la souveraineté et la remplacer par la rachat... Voilà, c'est là que je dis qu'il y a l'État, c'est l'organe de la pensée sociale. Alors, effectivement, on a besoin d'un organe de la pensée sociale. Je souscris complètement à cette idée-là. Que cet organe de la pensée sociale qui peut correspondre à un monde d'autonomie collective doit être retranscrit dans les termes de la souveraineté de la volonté générale, j'aurais tendance à freiner des deux pieds. Mais vous voyez, c'est ce que je vous répondrai à toutes les deux finalement. Je laisserai Justine donner d'autres précisions, en particulier sur la question des frontières. Et sur les changements de droits de l'homme, oui, bien sûr, mais on ne prétend pas avoir un modèle des droits de l'homme. Je pourrais répéter ici que ce que je dis sur le fort, quoi. J'aime beaucoup dans le fort l'idée que la dynamique des droits de l'homme, ce n'est pas une dynamique analytique, mais une dynamique inscrite dans la Sittlichkeit hegelienne, hein, pour le dire très brutalement. Donc il faut absolument assumer qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la Sittlichkeit et pas de la moralité. Et pas de la moralité kantienne. Sur la dimension fondationnaire, j'ai envie de dire, je ne vois pas comment on va avoir une dimension fondationnaire. Les dimensions fondationnaires me semblent porteuses de davantage de dangers que d'autre chose. Et donc, en un sens non pragmatiste, pas au sens de Rorty, mais ici je dirais priorité de la démocratie sur la philosophie. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut élaborer, ce sont les droits qui sont nécessairement attachés à la dimension de l'interlocution et donc de l'intersubjectivité. Et les droits de l'homme ne sont pas les droits subjectifs, mais les droits qui sont attachés à cette dimension de l'interlocution et de l'intersubjectivité, ce qui pose la question de la traduction sociale, parce que l'intersubjectif n'est pas encore social, de cela, mais je ne vois pas, je pense que la voie fondationnaire est bouchée. Et alors paradoxalement, parce que ce n'est pas du tout Straussien qu'on dit, c'est quand même Straussien, c'est-à-dire que je m'installe ici, il y a un point chez Strauss auquel je vais souscrire, qui est que le philosophe ne peut pas dépasser le point de vue du citoyen politique ordinaire. Et c'est en ce sens-là qu'il y a quelque chose qui fait obstacle a une dimension franchement fondationnelle.
Moi, j'ai plus grand chose à ajouter à ce que Jean-Yves, je crois qu'on doit. Effectivement, je crois que c'est important d'insister sur cette notion de puissance publique que nous, on maintient. Qui, alors, la question dont on maintient la nécessité, peut-être avec cette question, effectivement, de la souveraineté, où je pense, d'ailleurs, j'étais en désaccord sur. C'est peut-être parce que je suis belge, hein, une vision un peu plus baroque de la question. Une souveraineté limitée paraît tout à fait concevable. Enfin, c'est pas du tout une contradiction dans les termes. Elle est déjà limitée en ordre interne, elle peut être limitée en ordre au niveau international. La question la plus centrale, c'est la question des frontières, qui finalement est très éludée même dans les écrits d'Étienne Balibar, parce qu'il nous dit bon voilà, il faut démocratiser les frontières. Comment est-ce qu'une frontière peut être rendue démocratique? Et donc, je n'ai pas de réponse à cette question. Si on abolit les frontières, il n'y a plus de communauté politique, c'est un cauchemar, c'est la fin de l'hospitalité en tant que telle. Balibar refuse cette éventualité. Et comment est-ce qu'on démocratise les frontières? Comment est-ce qu'on fait en sorte que tous ceux qui soient partie prenante participent aux décisions d'ouverture et de fermeture? Une question que je trouve tout à fait absolue. Et juste pour terminer, pour répondre à la question de Lévi, oui, peut-être pas à ce stade, nous, on n'a pas élaboré une conception, on n'a pas élaboré une politique des droits de l'homme. Je crois qu'il y a peut-être juste ça, on a juste défendu une conception politique, enfin, montré la dimension, on a insisté sur la dimension politique des droits de l'homme, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que de faire les droits de l'homme le credo de toute politique, ce qui n'est pas du tout notre but non plus.
Très peu de temps, oui, on remonte très peu de temps. Une minute.
Oui, ok, Émilie. Bon, alors Émilie, simplement, je crois qu'effectivement, là, il y a une divergence, on aurait pu en discuter de ce point de vue-là. Je comprends bien, à la différence, c'est très intéressant la distinction entre la souveraineté comme puissance publique, souveraineté comme un sens de dernière décision juridique. Je dois dire que, peut-être parce que je suis pas mal passée par les Allemands, je suis effectivement très marquée par la première définition qui pose d'ailleurs un problème, parce que en allemand, vous avez une souveraineté que vous avez Grundrechte. Et dans la discussion actuelle qui a eu en Allemagne entre la Cour de Karlsruhe et le rapport avec les transferts de souveraineté ou pas au niveau européen, cette distinction joue un rôle important. Je me demande toujours, quand je suis dans les textes, comment on les traduirait. Bon, donc effectivement, je suis plus marquée par là, j'entends bien la différence, je la trouve intéressante. Il reste que le point de la différence, c'est que par rapport au turcanisme politique, je suis fondamentalement anti-turcanienne, pour le dire de manière brutale. Pour une raison simple, qui est que quand ça se formule sous forme d'une théorie politique qui apparaît dans les cours de sociologie de 1902, là, c'est une conception paternaliste de la démocratie. Une conception de la démocratie, les bras vous en tombent. Il explique bien que si effectivement l'État c'est le cerveau social, c'est parce que les gouvernés, on va leur demander ce qu'ils pensent, mais on va leur surtout éviter. Il faut qu'ils soient un peu moins passifs, c'est-à-dire qu'ils comprennent les raisons des gouvernants. C'est une conception de la politique qui est assez fréquente aujourd'hui. Mais ce n'est pas ma conception de la démocratie. Et je pense que quand vous partez sur les droits de l'homme et que vous développez ça avec le thème de l'action du sujet comme sujet actif, il me paraît qu'il y a une tension avec une pareille conception, aussi intéressante soit-elle, à analyser de la politique. Donc, elle a une différence. Par ailleurs, je n'ai rien à propos. Évidemment, je n'ai pas une hostilité. Je l'ai dit, je souhaite aussi une solution institutionnelle, mais je me pose toutes les questions en matière analytique en termes de projet. Là, j'en ai pas. Voilà. Pardon, M. Pratelier.
Merci beaucoup pour vos réponses. Mais enfin, peut-être qu'on aurait l'occasion de rediscuter. Par ailleurs, sur la question de la souveraineté, je vous remercie. Effectivement, la distinction est importante et l'insistance sur la puissance publique, je la comprends bien. Il me semblait que si on se débarrassait du concept de souveraineté, et c'est vrai que je n'ai pas précisé, mais c'était l'idée de souveraineté populaire, est-ce qu'on se privait pas d'un autre principe de légitimité en contexte de modernité, qui est à côté des droits de l'homme, mais aussi celui de l'autodétermination? Voilà, enfin, il me semble qu'à cet égard, la souveraineté est peut-être une dimension importante. Et ensuite, je vous remercie de la réponse très franche sur la question du caractère peut-être que l'expression est mal choisie. Cela dit, j'aurais tendance à penser, enfin, voilà, est-ce que ça fragilise pas l'entreprise de ne pas chercher à penser au moins la manière dont ces différents droits sont. Dont on pense l'articulation des différents droits de l'homme. Enfin, vraiment, moi, ce que j'avais en tête, c'est vraiment l'objection courante de prolifération des droits qui est souvent faite à l'encontre des droits de l'homme. Est-ce que. On se fait un grand pas de type, justement, en essayant de fonder les droits de l'homme, disons, sur une norme. Enfin, voilà, c'est de penser un fondement.